RFI 5h30, ici à Paris, 3h30 en temps universel.
Grégoire Morelli.
Cela fait pile 100 jours que Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche. Sa politique a des répercussions partout à travers le monde et l'Afrique n'est pas épargnée. Entre droits de douane et critiques virulentes à l'égard de certains pays du continent, quel bilan tirer de ce début de second mandat? Élément de réponse dès le début de ce journal. Nous serons aussi au Soudan où un officier des FSR a revendiqué le crime commis par les paramilitaires dans la localité de Salah, au sud d'Omdurman, le 27 avril. Ce jour-là, 31 civils ont été exécutés. Enfin, une projection privée d'un documentaire de la BBC interdite au Kenya. La chaîne britannique revenait sur les violences policières du 26 juin 2024 lors de manifestations et où 60 personnes ont perdu la vie. Après le Lesotho, Madagascar a été le second pays africain frappé par la plus haute taxe douanière de l'administration Trump, 47% pour le moment suspendu, mais il y a de quoi affoler plusieurs secteurs économiques du pays qui exportent une partie de leurs produits vers les États-Unis, à commencer par la filière de la vanille, deuxième produit exporté après le nickel. Écoutez la réaction de George Gerhardt, président du puissant groupement des exportateurs de vanille sur la Grande Île.
À Madagascar, tout le monde a été très surpris par la politique tarifaire de Trump, non seulement de par son esprit, mais aussi de par sa méthode de calcul qui mettait à mal les économies les plus faibles dans le monde. Il est évident que la balance est toujours déficitaire économiquement quand un pays pauvre vend ses matières premières et a une population qui n'est pas à même d'acheter des produits finis qui sont généralement chers. Force a été de constater que du côté des acheteurs américains des produits vanille, eux aussi se sentent mis à mal par ces décisions. La filière vanille a toujours vécu avec des fluctuations importantes, que ce soit au niveau des volumes offerts ou demandés ou des prix pratiqués. On n'avait pas besoin de ça en plus. Cette politique américaine difficilement compréhensible, ça rajoute une couche sur un secteur qui a déjà des difficultés à tout niveau. Donc, pour le moment, nous bénéficions d'une suspension de 90 jours. À l'issue de cette suspension, le marché d'exportation à Madagascar sera fermé et redémarrera début octobre. Dans l'intervalle, on espère tous que les négociations qui ont lieu entre l'État malgache et les États-Unis vont aboutir à une révision de ces décisions.
Et depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, les attaques se sont multipliées à l'encontre de l'Afrique du Sud. Donald Trump critique notamment la manière dont le pays maltraiterait selon lui la minorité blanche, une minorité qu'il invite à venir se réinstaller aux États-Unis en tant que réfugiés, sans premier jour, donc qui n'ont pas été de tout repos pour Pretoria, Claire Bargelès.
Les tensions ont atteint leur apogée lorsque le mois dernier, l'ambassadeur sud-africain à Washington a été sommé de quitter le territoire après avoir qualifié la politique du président américain de suprémaciste. Mais la brouille remonte à beaucoup plus loin. Déjà lors de son premier mandat, Donald Trump dénonçait ce qu'il qualifiait de confiscation des terres aux fermiers blancs, surfant sur les théories de génocide des blancs aussi partagées par Elon Musk. Les deux hommes reprochent à l'Afrique du Sud ses politiques de redistribution des terres, bien que Pretoria démente toute confiscation arbitraire. Deux semaines après son inauguration, le président américain recommençait ses attaques autour de ce thème sur son réseau social, puis annonçait couper toute aide à la nation arc-en-ciel. Dans la foulée, le secrétaire d'État Marco Rubio a décliné un déplacement en Afrique du Sud pour assister à une réunion de préparation du G20, puis le pays a été visé par une taxe de 30% lors de la vague de nouveaux tarifs depuis suspendus. Il faut aussi rappeler que Pretoria est l'un des porte-drapeaux de la cause palestinienne, avec notamment sa plainte contre Israël devant la Cour internationale de justice, ce qui n'est pas vraiment du goût de l'administration Trump. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Cyril Ramaphosa, qui récemment a échangé par téléphone avec son homologue américain, selon Pretoria, les deux hommes devraient se rencontrer prochainement. La stratégie du chaos, 100 jours de Trump, RFI sera en édition spéciale dès 6h, temps universel. Vous pouvez aussi retrouver une série d'articles sur notre site RFI.fr.
RFI.
En République démocratique du Congo, la SADC a officiellement commencé à retirer ses troupes de Goma hier. La force militaire de la communauté de développement d'Afrique australe était déployée dans la province du Nord Kivu depuis décembre 2023 en soutien à l'armée congolaise pour empêcher la progression des combattants de l'AFC M23. Son retrait progressif par la route doit s'achever à la fin du mois de juin. Le blocus humanitaire sur Gaza est débattu cette semaine devant la Cour internationale de justice. 40 États et 3 organisations multilatérales défilent face aux juges de la plus haute instance de l'ONU. L'Assemblée générale demande à la Cour de dire quelles sont les obligations d'Israël vis-à-vis de l'ONU alors que l'État hébreu empêche toute entrée de l'aide humanitaire à Gaza depuis le 2 mars. Hier matin, l'Afrique du Sud et l'Algérie ont tous deux dénoncé la politique d'Israël. Compte rendu d'audience avec Stéphanie Maupas.
Comme la majorité des États qui plaident depuis lundi devant la Cour internationale, l'Algérie et l'Afrique du Sud rappellent qu'Israël a l'obligation de protéger la population qu'elle occupe, c'est-à-dire les Palestiniens. C'est ce que disent les conventions de Genève. Israël ne peut faire de la famine une arme de guerre. C'est ce qu'a dit Maya Salif Adel, professeure de droit international de l'Université d'Alger.
L'aide humanitaire ne doit jamais être utilisée comme un outil politique ou une arme de guerre. Sauver des vies ne devrait jamais être un sujet de controverse. Les principes et règles du droit international développés au fil des siècles pour protéger les civils ne doivent pas être balayés.
Dans sa plaidoirie, le conseiller juridique du ministère des Affaires étrangères d'Afrique du Sud, Jemion Hendricks, a appelé le monde à un sursaut.
L'Afrique du Sud partage le point de vue du secrétaire général de l'ONU selon lequel le monde a trahi le peuple palestinien. Leur seule certitude est que demain sera pire. Nous devons donc sauver ce qui reste de notre humanité en mettant fin à l'occupation coloniale illégale d'Israël et à la famine intentionnelle dont il fait preuve envers la population palestinienne, systématiquement brutalisée et privée de la plus élémentaire considération d'humanité.
Les audiences devant la Cour se poursuivront jusqu'à vendredi. Stéphanie Mopala et RFI.
Au Soudan, un chef militaire appartenant aux forces de soutien rapide a revendiqué le crime commis par les paramilitaires dans la localité de Salah, au sud d'Omdoumran, contre des civils le 27 avril. 31 ont été rassemblés et leur exécution a été filmée. L'officier a communiqué son identité, affirmant qu'il s'agissait d'un acte de vengeance aux réponses des exactions de l'armée à Al Jazeera et Khartoum. Écoutez Tasnim Alamin du réseau de médecins soudanais qui continue de dénoncer ces exactions.
Il s'agit du plus grand crime collectif documenté qu'a connu la localité de Salha. Les personnes exécutées étaient accusées d'aider l'armée. Le réseau des médecins soudanais dénonce les exactions de masse commises contre les civils dans les régions sous contrôle des FSR. Des milliers d'autres civils démunis qui se trouvent à Salha au sud d'Omdurman sont sous la même menace. Nous considérons qu'il s'agit d'un crime de guerre et d'un crime contre l'humanité et nous demandons à la communauté internationale d'agir rapidement pour sauver les civils de Salha. Nous demandons aussi l'ouverture des couloirs sécurisés afin de permettre à ces milliers de personnes de quitter la zone. Nous demandons de faire pression sur les FSR pour mettre fin à leurs crimes et exactions et pour préserver la vie des gens.
Le Soudan, où le nombre de déplacés diminue malgré la guerre qui se poursuit. L'Organisation internationale des migrations note une baisse de près de 2,5% depuis décembre 2024. En effet, près de 400 000 déplacés sont rentrés chez eux dans les états d'Al Jazeera, Sennar et Khartoum. Mais ils retrouvent bien souvent leur maison en ruine. C'est le cas dans la capitale, récupérée fin mars par l'armée. C'est un reportage rare à Khartoum de notre envoyé spécial Gaël Lalex.
Altaïb Abbas Khalifa est rentré de l'état d'Al Jazeera il y a quelques jours. La mine dépitée, les larmes aux yeux, il visite le quartier de Bouri où il a toujours vécu.
Ça, c'est notre maison. Quand les FSR sont arrivés, ils nous en ont chassés. Ça, c'est notre salon. Là, c'est la cuisine. Et puis la salle à manger où la famille se retrouvait. On avait des lits, une table, un réfrigérateur, des chaises.
La maison d'Altaïb n'est aujourd'hui qu'un tas de gravats. Les paramilitaires des forces de soutien rapide l'ont pillé. Tout le quartier a subi le même sort. Mahassine Moussa Ibrahim est revenu il y a un an, avant même que l'armée ne reprenne la capitale.
Je me sens triste et frustrée, c'est une injustice. Tous nos biens, nos économies ont disparu du jour au lendemain, volés. Quand les FSR ont atteint l'état d'Al Jazeera, où l'on était réfugié, j'ai préféré rentrer. Autant mourir à la maison.
Mustapha Omar Ahmed est rentré il y a 6 mois. Il espère rapatrier bientôt sa famille, mais tout est à reconstruire.
On s'en sort, mais on n'a pas d'eau, d'électricité et de services de base. J'attends que les gens rentrent pour pouvoir acheter des meubles et des biens. Je n'ai pas d'argent et il n'y a pas de travail. Ce sont ceux de la diaspora qui nous envoient de l'argent pour survivre.
Selon l'OIM, le Soudan dénombre encore près de 11,5 millions de déplacés internes. Gaël Lalex, de retour de Khartoum, Nairobi, RFI.
C'est un documentaire qui fait vivement réagir au Kenya et dont une projection privée a été interdite dans le pays. Le programme en question a été réalisé par la chaîne britannique, la BBC, qui a enquêté sur les violences policières du 25 juin 2024. Ce jour-là, des milliers de Kenyans descendent dans les rues à Nairobi pour protester contre la loi de finances publiques. Certains pénètrent même dans l'enceinte du Parlement où les députés venaient de voter la loi. Les forces de l'ordre répondent alors avec une extrême violence. La BBC pointe du doigt le rôle des forces de l'ordre, Alban Tiroir.
Le documentaire de la BBC revient sur le meurtre de trois jeunes manifestants non armés aux alentours du Parlement le 25 juin dernier. Après avoir analysé plus de 5000 images, l'enquête conclut qu'ils sont morts suite à des tirs d'un policier et d'un soldat. Depuis, les appels à la justice se multiplient. Amnesty International, notamment, a lancé une pétition en ligne appelant à la mise en place d'une commission d'enquête. Irungu Houghton est le directeur exécutif de la branche kényane de l'ONG.
La BBC a été capable de nous en dire plus sur les événements autour de l'invasion du Parlement que nos propres institutions chargées de faire respecter la loi. Nous sommes profondément inquiets de ne pas avoir vu de poursuites pénales ou de condamnations d'agents de l'État soupçonnés d'avoir tué, enlevé, intimidé et blessé des Kenyans. Ce manque de justice est très inquiétant, car il envoie un message à tous les officiers de l'État qu'ils peuvent ne pas respecter la loi, commettre des crimes graves et ne pas craindre de représailles judiciaires.
La police des polices affirme que sur 60 cas de décès déclarés lors des manifestations, 22 enquêtes ont été conclues, 36 sont toujours actives et 2 sont devant les tribunaux. Mais la polémique continue d'enfler. Selon la presse kényane, la BBC a été contrainte d'annuler une projection privée lundi soir suite à des pressions des autorités. Le documentaire est pourtant disponible sur YouTube. Il avait déjà plus de 3 millions de vues mardi soir. Alban Tiroir, Nairobi, RFI.
Et du sport pour terminer cette édition avec du football d'abord. Le Paris Saint-Germain prend un petit avantage après sa victoire sur la pelouse d'Arsenal. 1-0 lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions. L'autre demi-finale aller a lieu aujourd'hui entre le FC Barcelone et l'Inter Milan. Coup d'envoi à 19h, temps universel. Et puis du cyclisme aussi avec le Tour du Bénin. La deuxième étape a eu lieu hier. Épreuve remportée au sprint par le Marocain Alhoussein Sabahi. Et parmi les 80 coureurs encore en lice, ils sont mobilisés, ces coureurs, par les organisateurs à l'écologie. La compétition, en effet, se veut propre. Olivier Pron est allé inspecter les rues.
Moi, je m'appelle Ketounou David. Nous sommes la commission écologie. On ramasse les bidons vides qu'on a jetés, les sachets, les débris, tous les, même les bananes. Un truc là, comme ça. Tout ce qu'on voit comme déchets, on débarrasse ça du terrain pour que tout l'endroit là soit propre.
Comme David, ils sont trois chaque jour à ramasser les déchets de la caravane. Ils sont la commission écologie du Tour du Bénin et leur compatriote coureur Glorad Saïzenou adhère et n'en est pas peu fier.
Les plastiques et autres, on n'aimerait pas voir ça sur le tour. La propriété est très importante parce qu'on respecte notre pays et c'est ça qui est bien. C'est ça qui fait la valeur du tour aussi. Il est interdit de jeter les bidons par terre et autres. Soit tu remets ça au directeur sportif, soit lors de la zone de ravitaillement, on peut jeter ça.
Même son de cloche chez le voisin togolais Nyuleleng Chalem, qui fait les efforts demandés et souhaite que l'initiative fasse des émules.
Moi, je trouve que c'est très bon parce que la propriété aussi, il faut la propriété. Le Tour du Bénin, c'est des choses qu'il faut copier et faire dans les autres pays aussi.
C'est très important.
Oui, c'est très 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 important.
Et chaque jour, ce sont ainsi de 30 à 40 kilos de déchets qui sont remis aux localités accueillant les étapes. On n'a rien sans rien. Olivier Promboïcon, RFI.
3h43, temps universel, c'est la fin de cette édition, mais restez avec nous, l'information continue sur RFI.
Afrique Matin sur RFI.
Et à suivre durant les 15 prochaines minutes sur la radio du monde, les 100 premiers jours de Donald Trump à la présidence des États-Unis, de son choix de couper dans l'aide extérieure par exemple, à son invitation à forer et exploiter le gaz de schiste présent dans le sol américain. On décryptera certaines des mesures prises par le président américain depuis le début de son nouveau mandat. Cela fait donc exactement 100 jours que Donald Trump a signé son retour à la Maison-Blanche. Entre déclarations choc, annonces fracassantes et décrets, de nombreux centrafricains suivent avec beaucoup d'intérêt la gouvernance du 47e président américain à Bangui. Bangui, la capitale, les avis sont contradictoires. Si les uns pensent que Donald Trump représente l'espoir d'un nouveau monde, d'autres y voient des signes du bouleversement de l'ordre mondial. C'est un reportage de Rolf Steph Domialeux.
L'ambiance est à la fois décontractée et studieuse dans la bibliothèque de l'Alliance française de Bangui, Élèves, étudiants et fonctionnaires sont confortablement installés. Parmi eux, Maurice Guimendego. Ce professeur d'histoire-géographie est concentré sur un livre intitulé « Donald Trump, faiseur de paix ou apôtre du désordre mondial ».
Donald Trump passe pour une espèce de météorite qui vient s'abattre sur un monde qui était déjà marché claudiquant. Au plan intérieur, c'est une véritable désillusion. Pour être protectionniste, il n'y a peut-être pas besoin d'augmenter les taxes d'une manière vertigineuse, jusqu'à près de 150% pour certains pays, je crois que c'est la Chine.
Au rez-de-chaussée du bâtiment, un groupe de jeunes discute dans le hall. Chacun donne son avis, mais la centaine de décrets pris par Donald Trump a marqué l'esprit de Mustapha Bouba.
Il a fait un temps record en signant 79 décrets en 40 jours. Il a changé la vision du monde, là où on peut dire le protectionnisme exacerbé de Donald Trump. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est par rapport à sa remise en cause de l'engagement des États-Unis envers l'OTAN. Il a débuté d'une manière radicale. Espérons peut-être s'il y aura un changement, peut-être.
Le gel de l'aide américaine par Donald Trump a suscité chocs et émois dans le pays, alors que le dernier rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, a révélé qu'environ 37% des Centrafricains sont vulnérables en 2025. La suspension de cette aide a un impact direct sur la RCA, selon Jefferson, un autre jeune Centrafricain.
La République centrafricaine est un pays qui n'est pas très développé comme les États-Unis. Avec le blocage de ces aides, ça rend certaines organisations inefficaces. Il y a certaines personnes qui sont maintenant en chômage et certains ménages en souffrent aussi en République centrafricaine. Les populations vulnérables bénéficient souvent de ces aides-là.
Pour l'historien Maurice Guimendego, la gouvernance actuelle de Donald Trump mène du plan de l'aide des Occidentaux et donnera la latitude nécessaire aux BRICS, un groupe de 10 pays dont le Brésil, la Russie, l'Inde ou la Chine pour conquérir le monde.
Si vous prenez la population de l'ensemble des pays qui constituent le BRICS, ça constitue quand même près de 60% de la population mondiale. Les BRICS se sont constitués pour contrebalancer les effets trop importants, envahissants des États-Unis et des autres.
Aujourd'hui, de nombreux Centrafricains demandent l'implication sans faille des États-Unis dans la gestion des crises sécuritaires dans le monde, notamment en République centrafricaine. Rolf Estève, Domiale, Bongui, RFI.
Et c'est un reportage que vous pouvez réécouter sur le site de RFI.fr.
RFI, toute l'actualité, Grégoire Morelli.
Et à la une de l'actualité internationale de ce mercredi, les résultats des législatives au Canada, les libéraux du Premier ministre sortant sont vainqueurs avec 169 sièges de députés. Il manque la majorité absolue pour 3 sièges. Marc Carney devra donc trouver des accords avec de petites formations politiques pour gouverner. En Syrie, au moins 14 personnes ont été tuées dans la nuit de lundi à mardi en banlieue de Damas. Les forces de sécurité syriennes ont affronté des combattants de la minorité druze. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les violences ont éclaté après la diffusion d'un message audio jugé blasphématoire envers l'islam. Les autorités syriennes et des représentants druzes ont conclu un accord dans la soirée de mardi pour traduire en justice les responsables de cet assaut sanglant. Le gouvernement pakistanais assure disposer de renseignements crédibles selon lesquels l'Inde prévoirait une frappe militaire imminente. Le premier ministre indien Narendra Modi avait auparavant donné son feu vert à une opération militaire en représailles à l'attentat meurtrier il y a une semaine au Cachemire, dont il impute la responsabilité au Pakistan voisin. Enfin, les États-Unis se montrent de plus en plus agacés par la tournure des discussions sur la guerre en Ukraine. Washington exhorte Moscou et Kiev à faire des propositions concrètes pour mettre fin à la guerre, faute de quoi ils menacent de stopper leur médiation. Vous l'aurez compris, journée spéciale sur RFI à l'occasion des 100 premiers jours de Donald Trump à la Maison Blanche. Un second mandat placé sous le signe des coupes dans l'aide extérieure des États-Unis, notamment il y a eu l'USAID. Et la semaine dernière, Washington a annoncé la fin du MCC, le Millennium Challenge Corporation, une institution qui finance les infrastructures. 2/3 de cette aide profitait aux pays africains. Électricité, réseau routier, irrigation, de nombreux projets ont pu se faire grâce au MCC.
Les ouvriers s'activent encore sur le grand échangeur de Koumassi à Abidjan, une infrastructure financée par le MCC dans le cadre du programme pour la Côte d'Ivoire, 537 millions de dollars au total pour notamment la réhabilitation du boulevard du port, des années qu'elle était en projet et ce sont les financements américains qui ont permis cela, explique Marie-Viviana Dogo-Sankoulibaly, directrice du MCA Côte d'Ivoire, l'entité responsable de la mise en œuvre du programme.
C'est une voie qui est clé dans l'économie ivoirienne parce que tous les produits passent donc par cette voie-là pour être exportés ou même importés aussi. Beaucoup d'industries y sont installées dans la cimenterie, dans le café, dans le cacao. Et la réhabilitation d'un tel boulevard donc a un impact important dans les performances de toutes ces industries-là.
Au Malawi, c'est un financement de 350 millions de dollars qui s'envole. Il devait servir à la construction de routes à travers le pays. Jacob Ara, le ministre des Transports, l'a confirmé. Projet reporté après, dit-il, le brusque changement de politique américain. La nouvelle doctrine de rationalisation des dépenses publiques à l'international a encore frappé. Ibrahim Amadoulou, économiste nigérien.
Le risque, c'est que ça accentue des désordres qui sont déjà très présents dans ces zones qui, par ricochet, finissent par atteindre les pays développés sous divers canaux, notamment par la migration ou par tout un tas de vecteurs. Il serait souhaitable que les autorités américaines voient reconsidérer leur position pour essayer de reprendre ces aides.
Les États-Unis ont également mis fin à l'USAID, 16 milliards de dollars d'aide par an pour l'Afrique subsaharienne. Dans une moindre mesure, la France et le Royaume-Uni ont aussi raboté leurs aides au développement. Cela commence à faire beaucoup de financements qui manqueront aux États africains.
Il y a du ressentiment. Les organismes internationaux, en fait, ils emploient aussi de la main-d'œuvre local. Il y a des emplois directs et indirects. Moi, personnellement, pour ma part, j'ai des connaissances qui s'apprêtent maintenant à rentrer au pays et c'est beaucoup d'interrogations, effectivement, par rapport à leur avenir. En termes de perspectives, deviennent de plus en plus sombres.
L'alternative pour ces pays serait de se tourner davantage vers la Chine pour trouver de nouveaux financements. Mais Pékin est sur un modèle différent, misant sur des investissements avec contrepartie, ce qui participe à l'endettement des pays, assez loin des dons sans remboursement du MCC.
Alexis Bédu. Drill, baby drill, un slogan prononcé par Donald Trump dès le début de son deuxième mandat, car produire plus de pétrole n'est pas un problème climatique pour le président américain, mais bien un moyen de faire baisser les prix à la pompe. Marie-Pierre Olfan, bonjour.
Bonjour.
Les prix du brut ont chuté à leur plus bas niveau en 4 ans, mais à vouloir satisfaire ses électeurs, Donald Trump n'est-il pas en train de se mettre à dos l'industrie pétrolière ?
Alors oui et non, le président américain est devenu l'allié des majors qui sont implantés aux États-Unis dans la mesure où il encourage la production, mais la baisse des prix qu'il alimente avec cette politique pèse sur leurs résultats financiers. L'entreprise britannique BP, déjà en difficulté avant la nouvelle baisse des prix, vient d'annoncer un bénéfice divisé par 3 au premier trimestre parmi les raisons invoquées, la volatilité des marchés. Chevron, ExxonMobil, Shell ou encore Total Energy traversent elles aussi une zone de turbulence économique et pourraient, selon plusieurs analystes, être tentées de repenser leurs investissements.
Et ceux qui souffrent le plus des prix bas aux États-Unis sont les opérateurs qui exploitent le pétrole de schiste.
Oui, ce pétrole extrait des couches de schiste du sous-sol américain a un coût de production plus élevé en raison des technologies utilisées. La baisse des recettes entame donc la rentabilité des opérateurs qui exploitent ce brut. Pour réduire leurs dépenses, plusieurs d'entre eux ont ralenti leur activité de forage. Si les prix ne se redressent pas dans les prochains mois et s'ils passent sous la barre des 60 voire des 50 dollars le baril, un avenir dévastateur se prépare pour le secteur du schiste, préviennent déjà des producteurs.
À vouloir faire baisser les prix, Donald Trump rend service à la Chine, non ? Son premier ennemi sur le front commercial.
Oui, c'est tout le paradoxe de cette situation. Il faut avoir en tête que la Chine est le premier importateur mondial de brut et qu'elle refait ses stocks dès qu'ils sont bas et dès que les prix sont favorables, qu'importe presque le niveau de la demande, la Chine achète. Au mois de mars, ses importations ont bondi et s'accélèrent encore en avril. En ce moment, le pays importe environ 11 millions de barils par jour. Cela fait 18 mois qu'il n'a pas tenu un tel rythme. Certaines raffineries chinoises auraient même repoussé leur maintenance annuelle pour continuer à produire de l'essence, du diesel et du carburant pour l'aviation.
Marie-Pierre Olfan pour toutes ces précisions. Et comme chaque matin, on retrouve nos confrères d'Outre-mer, la première direction, La Réunion notamment, où il n'y a plus d'affrontements entre bandes rivales dans les quartiers les plus sensibles de Saint-Denis, le chef-lieu de l'île. Et ça, on en parle avec vous, Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour. Tel est le constat officialisé ce lundi lors de la réunion du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, sans doute un résultat concret du plan anti-bande lancé par l'État en début d'année à la réunion, L'État, autrement dit le préfet, qui ne relâchera d'ailleurs pas l'effort entrepris. Écoutez Patrice Latron au micro de Priscilla Etève.
On est toujours dans un combat contre ces bandes, contre ceux qui les animent, contre ceux qui croient pouvoir s'abriter derrière l'anonymat du groupe. Et c'est l'un des enjeux du plan anti-bande que d'aller les chercher un par un et de traiter des situations individuelles. Il y a la logique de l'occupation du terrain avec les forces de l'ordre, renforcées par des gendarmes mobiles. Et il y a également la logique de l'individualisation, aller chercher les gens un par un au fur et à mesure qu'on les interpelle et leur faire un traitement particulier, soit judiciaire sous l'autorité du procureur de la République, soit administratif. Et j'ai eu l'occasion de redire que j'ai pour objectif de provoquer l'expulsion locative de familles qui sont dans des logements sociaux et qui troublent la tranquillité publique dans leur quartier. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais je peux vous dire que nous avons cette détermination.
De son côté, la maire du chef-lieu et ancienne ministre, Erika Barretz, a annoncé la mise en place, dans les prochains mois, d'un dispositif expérimental baptisé « Participation citoyenne ».
Ce sont des citoyens qui nous permettraient, qui faciliteraient peut-être l'identification de voisins un peu bruyants, etc., pour qu'on puisse faire de la médiation et qu'on puisse avancer, parce que évidemment tout ça est très difficile à capter de là où on est. C'est toute la précaution qu'il faut faire et l'encadrement, on n'est pas sur des gens qui feraient de la délation à tout va. Hein. Ce sont des citoyens qui vont être sélectionnés, si je puis dire, par leur légitimité dans le quartier, la reconnaissance, le sérieux, pour que on ne perde pas notre temps non plus. Hein. Ça nous permet, nous, de ne pas après remonter dans des procédures lourdes vers la justice, etc. On gagne du temps et on apaise les quartiers.
Direction Mayotte, pour terminer, dans les locaux de la communauté des communes du Sud à Bandrélé, le département 101 s'est doté hier matin d'une association des intercommunalités, association dénommée tout simplement Interco 976, association qui a aussitôt élu son premier président, Ali Moussa Moussaben.
Cette association a toute sa place au niveau de l'organisation de nos institutions ici à Mayotte. Je rappelle tout simplement qu'en métropole, il existe l'Association des maires de France, mais il existe aussi l'Association des intercommunalités de France. Et ils sont complémentaires. Donc là, ici à Mayotte, les EPCI de Mayotte sont très jeunes et cette instance faisait défaut alors que c'est à ce niveau-là où on parle de l'aménagement du territoire. Parce que dans chaque territoire, on a des projets bien, en tout cas, travaillés au niveau des élus. Et c'est là où on parle d'aménagement, on parle d'urbanisme, on parle de développement économique, on parle du tourisme. Donc ce sont des sujets majeurs par rapport à Mayotte. On ne peut pas oublier ces instances-là. Et se réunir à nos associations, c'est encore mieux, puisque les sujets qui nous sont communs, on peut les partager ensemble par rapport à cette petite île de Mayotte. Et c'est vraiment, on pourrait être efficace en parlant de même voix. Président des intercommunalités de Mayotte, on sont déjà conscients de ce besoin d'être unis. D'ailleurs, même avant la création de cette association, on a déjà commencé à travailler ensemble. Et on a vu que ça porte ses voix, puisque quand on parlait de la loi d'urgence Mayotte, au départ, quand il était présenté, cette loi, on avait oublié les intercommunalités de Mayotte. Donc on s'est inquiété un petit peu, on nous a écoutés, on nous a entendus. Et à partir de maintenant, on prend en compte en tout cas notre existence et on nous associe au niveau de certaines choses.
Fin de cette édition. Bonne journée.
Merci Benoît Ferrand, bonne journée à vous aussi. Cette demi-heure d'information touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. À la réalisation ce matin, c'était Thierry Le Saint. À la rédaction en chef, Vincent Dublange. Merci à eux. Dans moins d'une minute, deux minutes maintenant, le prochain journal, ce sera avec Jeanne Bartoli. On reviendra bien sûr sur les 100 premiers jours de Donald Trump à la Maison Blanche. RFI sera d'ailleurs en édition spéciale entre 6h et 8h, temps universel. Andréane Mellard sera avec les correspondants et envoyés spéciaux de RFI et recevra plusieurs invités pour décrypter et analyser ces 100 premiers jours. D'ici là, bonne écoute sur la Radio du Monde.
RFI, la sélection du mois.
Nono Fuji.
Tu n'es pas Dieu le Père, le Fils couvre et dit Yeli, la marraine.
Les frères Timaï.
RFI Musique.
Le prix théâtre RFI.
Je suis Gad Ben Salem, lauréat du prix RFI Théâtre 2024. Ça a été une expérience enrichissante à tous les niveaux. Ce prix est un véritable tremplin. C'est à votre tour.
Si comme Gad Ben Salem, vous aimez le théâtre et vous avez moins de 46 ans, vivez en Afrique, aux Caraïbes ou au Proche-Orient, il est encore temps d'envoyer vos textes avant le samedi 3 mai minuit à prix.théâtre@rfi.fr.
Chers auteurs, chères autrices, le prix RFI Théâtre 2025 peut être vous.
Préparez-vous à découvrir le futur du stand-up africain. Avec le podcast La Relève du Rire, plongez au cœur de Mon Premier Montreux, le grand casting de l'humour lancé dans 10 pays d'Afrique francophone. Chaque semaine, découvrez un nouvel épisode avec les meilleurs sketchs et l'énergie débordante des humoristes de demain. Alors, d'où viendra la prochaine pépite du stand-up africain? La Relève du Rire, c'est votre dose hebdomadaire de bonne humeur. Disponible sur RFI.fr, l'application RFI Pure Radio et toutes les plateformes d'écoute.